Quitte à croire que pour franchir un pont, ben il faille s'appeler.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est Il est Noir sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de la coordination des groupes anarchistes, avec nos excuses pour la semaine dernière, puisque nous étions absents dans ce micro, pour cause de mobilisation. Voilà, allez, à tout de suite. Eh bien, rebonsoir, donc nous revoilà, émission Idées Noires de la coordination des groupes anarchistes. Et on va démarrer tout de suite par une grosse annonce pour demain.
Bah oui, bah du coup, on en fera un bon petit, une bonne petite tartine tout à l'heure, hein, mais du coup, vous l'avez sans doute entendu aussi sur l'émission précédente, mais du coup, il y a de nouveau une mobilisation contre la loi travail et son monde. Ça se passera demain à 13h au départ de la manufacture des tabacs, en direction, pas de la place Bellecour, parce qu'elle est privatisée pour cause d'euros, mais ça se terminera du coup place Maréchal Lyautey en passant par Saxe-Gambetta. Donc voilà, donc on vous donne forcément rendez-vous demain dans la rue. On fera un gros point tout à l'heure sur la loi travail et son monde, sur ce qui s'est passé aujourd'hui, notamment à Paris et Toulouse. Et puis on fera un point aussi sur la répression, parce qu'il y a plusieurs appels qui circulent, parce qu'il y a énormément de répression lors de ce mouvement-là. Donc voilà, mais on en reparle tout à l'heure. Et puis là, on commence par quelques annonces, c'est ça ?
Encore une petite annonce, oui. Il n'y avait pas des masses ce soir, mais il faut quand même pas oublier celle-ci. C'est pour le samedi 25 juin, et c'est à l'initiative aussi de nos amis, hein, de l'association 40 guitares pour Victor Rara. Et Nuit Debout aussi d'ailleurs qui s'y associe, et ça sera place Guichard donc cet après-midi, donc à partir de 16h. Voilà, alors il y aura un concert et aussi bien sûr comme dans tous ces moments des débats et toujours des débats. Voilà,
donc du coup pas beaucoup d'annonces en fait, parce que du coup, mais bon, il y en avait eu dans l'autre émission, dans l'émission précédente, dans le Canu Info, donc ça devrait aller si vous réécoutez ça. Voilà, on n'était pas là la semaine dernière à l'émission à 20h, on n'était pas au rendez-vous de Radio Canu, parce qu'on du coup on était au rassemblement qui avait lieu au Place des Terreaux, là, suite à la tuerie d'Orlando. Et puis du coup, je vais en profiter pour commencer cette émission par vous lire du coup le communiqué du groupe de la CG à Lyon à ce sujet-là, donc sur la tuerie LGBTophobe d'Orlando. Dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 juin, un tireur a ouvert le feu au Pulse, boîte gay latino d'Orlando aux États-Unis, faisant 49 morts et 59 blessés. Nous exprimons toute notre solidarité aux victimes de cet acte infâme, à leurs proches et plus largement à toute la communauté LGBT, entre parenthèses lesbiennes, gays, bi et trans. Depuis cette tragédie, les journalistes se sont longuement penchés sur les motivations personnelles du tueur et se sont interrogés sur la revendication de l'acte par l'État islamique, son état de santé mentale, ou encore sur le fait qu'il aurait auparavant consulté des applications de rencontres homosexuelles. En revanche, peu de rappels du contexte politique, à la fois général et plus spécifiquement américain. On a en effet assisté ces dernières années à un regain des discours et des actes contre les personnes LGBT. Ainsi, au Mississippi, le gouverneur avait quelques mois avant cette tuerie de masse signé une loi permettant aux entreprises, aux églises et aux organisations de charité religieuse de refuser leurs services aux personnes LGBT sous couvert de respecter leur liberté religieuse. En Caroline du Nord, une nouvelle loi permet maintenant d'arrêter les personnes trans qui n'utilisent pas les toilettes correspondant à leur genre assigné à la naissance. Cette lutte est d'ailleurs un cheval de bataille d'une bonne partie de l'extrême droite américaine. Début juin, une petite bombe artisanale explosait dans les toilettes d'un magasin qui avait une politique entre guillemets inclusive vis-à-vis des personnes trans, c'est-à-dire uniquement parce qu'elles avaient le droit d'aller dans les toilettes correspondant à leur genre social. En 2015, 21 femmes trans, la plupart racisées, ont été assassinées aux États-Unis. Ce pays fait également l'objet de violentes campagnes anti-avortement et de nombreuses cliniques ont dû fermer à cause de lois locales. En France, on a également assisté dans le sillage de l'ouverture du mariage pour tous et toutes à une recrudescence d'actes homophobes et transphobes dans le contexte de la manif pour tous. Même si les chiffres ont un peu rediminué depuis, SOS Homophobie recensait en 2013 une hausse alarmante des agressions homophobes et transphobes de 77%. Dans ce contexte, connaître les détails du profil psychologique du tueur d'Orlando n'est peut-être pas nécessaire pour connaître les vrais responsables de ce massacre, les personnes, organisations politiques et gouvernements qui promeuvent activement la lutte contre les personnes LGBT et contre l'égalité des droits. Dans ce contexte, nous ne pouvons considérer les déclarations de solidarité de la Manif pour tous et autres Christine Boutin que pour ce qu'elles sont, des crachats hypocrites. Dans ce contexte, nous ne pouvons pas non plus accepter que des politiques et des journalistes aient passé sous silence le caractère homophobe de ce massacre. Nous ne faisons pas d'illusions sur le fait que certains et certaines réactionnaires vont tenter de se servir de cet événement pour alimenter leur discours haineux et islamophobe, oubliant que les fascistes religieux ou pas se retrouvent en général d'accord lorsqu'il s'agit d'opprimer des minorités et ont des pratiques qui ne sont pas si différentes quand ils ne leur vendent pas directement les armes pour commettre leur massacre. Nous estimons pour notre part nécessaire de combattre au quotidien toutes les oppressions et toutes les hiérarchies. Ce massacre, aussi odieux soit-il, ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt de l'homophobie et de la transphobie, qui frappe au quotidien dans la rue, dans la famille, dans l'entreprise et qui tue parfois brutalement, mais aussi souvent insidieusement. Entre parenthèses, les jeunes LGBT sont un groupe où le risque de suicide est le plus élevé. Combattre efficacement l'homophobie, la biphobie, la lesbophobie, la transphobie, cela ne peut se limiter à quelques déclarations de soutien. C'est avant tout un long travail au quotidien pour lutter contre tous les actes, propos et comportements homophobes et transphobes et plus largement contre toutes les oppressions pour développer une véritable solidarité contre tous les exploiteurs. Donc voilà pour le communiqué de la CGA Lyon. Voilà, on nous a posé la question sur un forum... La question sur l'utilisation du terme fascisme religieux. Alors voilà, donc on a essayé un peu de répondre parce que du coup c'était un peu mal compris. C'était même compris un petit peu à l'envers. Donc voilà. Donc on avait, on a vite fait répondu. On fera peut-être pas un long débat là-dessus, mais juste rappeler du coup que ce terme-là, on l'utilise depuis un petit moment maintenant, le terme de fascisme religieux. Pour certains, ça fait le fascisme fait uniquement référence en fait à l'Italie de Mussolini, mais du coup, on explique un petit peu que c'est pas le cas. Voilà, on se réfère notamment aux travaux et aux ouvrages de Zev Sternel, voilà, qui s'appelle notamment un des bouquins qui s'appelle Naissance de l'idéolo-fasciste. Voilà, et surtout, on prend en compte la parole des premières concernées, donc notamment nos camarades kurdes qui utilisent ce terme-là pour dénoncer les fascistes de l'État islamique. Donc c'est pour ça qu'on le reprend aussi dans nos communiqués. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, avoir plus d'infos et plus d'explications là-dessus, relire d'anciens communiqués, notamment suite aux attentats de Charlie Hebdo et notamment aussi sur un autre texte fédéral sur le système de domination raciste en France. Donc voilà pour cette petite page.
Très bien. On passe à une petite page de lutte, sociale. Je vais commencer par des encouragements et des soutiens qui nous viennent hors des frontières de l'Hexagone, parce que ça, on n'en parle pas des masses dans les médias dits bourgeois. Et pourtant, ils existent. J'en ai une petite poignée, là. Par exemple, à Stuttgart, donc en Allemagne, une cinquantaine de personnes. C'était le 27 mai, en plein centre de la ville, pour une solidarité avec les grévistes et travailleurs et travailleuses de France. Le consulat français a eu droit à un joli collage d'affiches et aussi une banderole contre la loi travail. Et c'était bien stipulé en français. Et puis aussi une petite annotation en allemand. Alors je vais essayer de vous dire ça sans écorcher trop la langue germanique. Donc Solidaritat mit Kollegen innen in Frankreich. Voilà, j'espère que ça a été compris.
Je ne sais pas si c'était le bon accent, mais ouais.
Oui, non, mais bon, je ne l'ai jamais chopé. En Belgique aussi, même motif, donc même punition pour, je dirais, le patronat belge. En tête de la lutte belge, il y a les cheminots contre l'annualisation du temps de travail, plus de 38 heures hebdomadaires. Travailler plus en période dite chargée et moins, donc CQFD en période creuse et temps de repos menacé. Voilà, c'est à peu près la même chose qu'ici. Le gouvernement fédéral exige même l'application du diktat des patrons. Le trafic était perturbé, notamment en Wallonie. Donc, ce n'a pas empêché, évidemment, de nous envoyer leur soutien. Au Kurdistan d'Irak également, avec des encouragements chaleureux, je dirais, des travailleurs et travailleuses du Worker Party Communist of Kurdistan, solidaire avec les protestations ouvrières contre la modification du Code du travail, qui espère notre victoire avec le monde entier. Alors, ce n'est pas forcément montré ou commenté, comme je le disais, aux infos des médias en France. Nombreuses sont les travailleurs et travailleuses de la planète qui reconnaissent et encouragent, soutiennent les travailleurs et travailleuses de France, comme en Iran, en Espagne, en Irak, au Portugal, en Grande-Bretagne, en Italie. D'autres également, comme au Brésil, avec un rassemblement au consulat français par le syndicat CSP Conlutas. C'était le 14 juin à Sao Paulo. En Allemagne encore, avec plusieurs initiatives en soutien aux travailleurs et travailleuses françaises, donc contre la loi travail. Alors encore une fois, je vais essayer de prononcer correctement, Solidaritat mit den Kämpfen den in Frankreich. Voilà, j'ai pas la traduction, mais ça se comprend très très facilement. Aux États-Unis également, avec un rassemblement, des rassemblements et des manifestations devant le consulat et ambassade, avec une publication de communiqués solidaires, notamment de la part des travailleurs et travailleuses de Veolia Transdev. Il y en a là-bas aussi, apparemment, qui les font bien chier d'ailleurs. C'est ce qui était précisé dans leur communiqué. En Suisse aussi, pour terminer, avec un appel. Un rassemblement le 14 juin à Zurich par le groupe Aufbau, solidaire des grévistes de France contre la loi travail. Voilà ce qui est dit, et il y en a d'autres.
Hein. Oui, il y en avait eu d'autres un peu dans d'autres pays.
Ça
aurait
été peut-être un peu long. D'autres luttes également, là on va revenir donc en France avec la capitale, Paris, c'était le 1er juin, avec une manifestation devant le ministère de la Santé. Un bon millier de personnes, le nom que l'on redonne à ces travailleurs et travailleuses, le nom populaire, ce sont les blouses blanches, vous allez deviner que ce sont les infirmières, infirmiers, aides-soignantes et soignantes, toubib, enfin, etc. Et aussi, bien sûr, les non-soignants et soignantes, le personnel administratif, qu'on appelle aussi populairement les ronds de cuir. C'est gentil, ce que je dis, c'est pas du tout péjoratif. Donc, on va rester un petit peu sérieux. Cette manif était emmenée par les syndicats et collectifs divers qui se battent contre le regroupement ou le groupement des hospitaliers de territoire, appelé GHT en plus court, et qui représentera donc une grosse perte de la qualité des soins, mais ça c'est une lutte qui date depuis pas mal de temps. À Ivry-sur-Seine, dans le 94, donc près de Paris, avec une grève reconduite par les travailleurs de la ville de Paris, et c'est tout bonnement les agents de l'usine de traitement des déchets qui bloquaient le site, c'était jusqu'au 14 juin inclus, et l'occupaient. Une assemblée générale a réuni les grévistes, plusieurs grévistes, égoutiers, éboueurs, personnel des garages de la ville. Assemblée générale qui a décidé de la poursuite de la grève jusqu'au 14. en Loire-Atlantique avec un trafic perturbé sur Nantes, sur Saint-Nazaire, sur Le Croisic. Dans la semaine du 10 juin, mouvement impulsé avec revendication relativement originale puisque c'était un train gratuit. Ils revendiquaient un train gratuit de Saint-Nazaire à Nantes, puis un devis négocié en TGV de Nantes à Paris pour rejoindre la grande manifestation. À Blois, ce sont des salariés, travailleurs et travailleuses en souffrance, bien sûr, par un PSE chez Germano. Germano, c'est une charcuterie industrielle, groupe Turenne-Lafayette, dont la fermeture est prévue pour août. Et le 24 mai, une importante négociation, car les indemnités sont en peau de saucisson, sans rigoler. Les indemnités de départ, de reclassement, de formation, etc. Donc, toujours à minima, bien sûr. Au siège, avait lieu cette manifestation, où devait avoir lieu, du moins les discussions. La direction a envoyé les couleurs, on va dire, puisque c'était les couleurs de la police nationale, empêchant donc les représentants des salariés d'entrer. Bref, les négociations démarraient dans une atmosphère de conflit voulu par la direction qui ne lâchait sur aucune requête des salariés. Les représentants vont s'orienter sur la voie de la procédure judiciaire pendant qu'il en est encore possible. Ce qui a peut-être changé.
Ouais.
Voilà pour ce qui est de cette première page de lutte.
Et du coup, on se fait une petite pause musicale.
Allez, si tu me le dis, je renvoie la musique. Alors, ce soir, nous avons au menu un monsieur qui s'appelle Ridan et qui va nous qui va nous interpréter la comédie humaine. Voilà, c'est parti.
Dites-moi, mon bon Seigneur, nous serait-il possible de voir bien au-delà de la limite de ces champs où l'on cultive le mépris, la haine entre les gens, pendant que vous dormez sur ces coussins gonflés d'argent? Ne comprenez-vous pas, nous ne sommes point différents, nous aimerions tout simplement nourrir nos enfants. Nous n'avons ni les biens, ni terre, ni même coussins que vous offrez si courtoisement aux tendres courtisanes. Je blâme votre honneur, tout comme celui de vos descendants, qui dans la file d'attente n'hésite pas à passer devant, le torse bombé d'orgueil, les poumons vides d'inspiration, à l'image d'un bon père qui exaspère tous ces millions de villes affamées qui jurent de vivre comme des damnés et qui pour eux sont prêts à tout pour que naisse la révolution. Venez voir le spectacle d'un conteur de la vie. Tous les soirs de la semaine se joue la grande tragédie. Du drame à la passion, aux femmes de la fontaine, sur les bords de la scène se joue la comédie humaine. Dites-moi, mon bon Seigneur, entendez-vous la rage qui fait trembler la France et les pavés sur votre passage? Elle gronde les ruelles, les rumeurs se propagent, on brûle les calèches et le lion sort de sa cage. Soutenu par ses penseurs, d'insouciants révoltés, au salon parisien, l'absinthe a remplacé le thé, rendant la foule si ivre de toutes les libertés. L'individu est né par la force de son poignet. Qu'importe les barricades, le peuple a décidé. Les nuits seront terrain jusqu'à ce que l'homme trouve dignité. On arrache les symboles qui brillent comme une idole, qui trône sur la basse-cour rendant ces pauvres âmes si folles, qui rêvent d'un autre monde plus juste et plus honnête qu'une simple fête de roi où l'on partage la galette. Venez voir le spectacle d'un conteur de la vie. Tous les soirs de la semaine se joue la grande tragédie. Du drame à la passion, aux fables de la fontaine, sur les bords de la scène se joue la comédie humaine. Dites-moi, mon bon seigneur, entendez-vous la fin du règne féodal qui plane comme un chant. Le peuple a fait serment, pour vous les pas perdus, d'un revers de la paume la France a su reprendre son dû. Aujourd'hui qu'en est-il de ces combats d'antan, de ces belles déclarations que l'on souille à chaque instant. Les rôles n'ont pas changé, en quelques décennies, la valeur de la vie s'aligne toujours sur le trottoir. Les gens n'ont-ils plus faim, ont-ils un lit le soir, mais qui donc joue la comédie sur le dos de mon histoire. Venez voir le spectacle d'un conteur de la vie. Tous les soirs de la semaine se joue la grande tragédie. Du drame à la passion, aux femmes de la fontaine. Sur les bords de la scène se joue la comédie humaine.
Voilà, c'était Ridane. Donc, vous êtes à l'écoute de Idées Noires sur le 102.2 de Radio Cadu, l'émission de la coordination des groupes anarchistes, et on attaque autre chose.
Oui, donc du coup, 20h20 bientôt, on va attaquer du coup une bonne petite page sur la loi travail et son monde, et puis tout ce qui se passe à côté. J'ai commencé du coup par un petit quelque chose qui a un lien direct, qui pourrait devenir du coup, qui est une exception pour le moment, enfin une exception, ça a déjà été le cas dans plusieurs usines, mais qui pourrait devenir la règle en cas de passage de la loi travail, avec son inversion de la hiérarchie des normes, et ces fameux référendums d'entreprise avec cette usine Smart. Et ben du coup, les salariés ont dit oui entre guillemets, hein, parce que vous pensez bien que c'est un petit peu forcé aussi, hein, pour passer aux 39 heures payées 37. Voilà, donc c'est assez formidable. Donc voilà, ouais. Donc voilà, c'est oui pour ces salariés-là, donc c'est en Moselle. Ils étaient invités à se prononcer, voilà, via une consultation, hein, sans valeur juridique, bien sûr, hein, précisée par l'employeur. Hein. Et donc les 800 employés du site ont approuvé à 56% la proposition de la direction. Donc un résultat contrasté, hein, parce que du coup, les modulants, donc c'est-à-dire les ouvriers, ont plutôt dit non à 61%, tandis que les non-modulants, plutôt du coup les cadres, je suppose, hein, ont approuvé à 74%. Du coup, forcément, le directeur, hein, de ce Smart-là, du coup, qui est très content, hein, qui dit que ce résultat confirme l'engagement de ses coéquipiers en faveur de l'usine. Donc, on est des coéquipiers, c'est assez formidable.
Ça, c'est la pommade.
C'est un peu ce qu'on appelle, voilà, l'entreprise libérée où tout le monde est ensemble, mais tout le monde n'a pas le même salaire. Donc, voilà, donc ils vont passer, conduirait donc à remonter le temps de travail hebdomadaire de 35 heures à 37 heures dès l'automne, puis à 39 heures entre 2016 et 2018, avant, soi-disant, de redescendre à 35 heures en 2020. Donc, j'adore ça, avec aussi une promesse d'embauche de 50 personnes, mais qui va faire plutôt virer les intérimaires qu'autre chose. Voilà, il y a une contrepartie au niveau salaire, mais qui est assez ridicule. Et donc voilà, donc ce qui pourrait être la règle bientôt, hein, avec ces fameux référendums d'entreprise, il suffit que quelques syndicats le proposent, ou même
maintenant que
la loi a été modifiée par la droite, ce serait carrément sur proposition de l'employeur, donc un peu comme ceci. Donc voilà. Voilà où on se dirige si jamais ça passe. Donc encore une raison de plus si on pouvait en donner une autre, de venir demain et d'occuper la rue demain partout en France, partout là où c'est possible, parce que pas partout, c'est pas non plus très possible, on va dire. Vous avez souvent suivi le feuilleton de la journée avec cette interdiction en début de matinée de la manifestation parisienne. Voilà, il y avait eu un premier parcours, voilà, qui a été refusé par la préfecture, un deuxième proposé qui a été refusé, carrément, je crois, par le ministre de l'Intérieur, ce coup-ci, hein, qui a décidé d'interdire tout ça. Finalement, dans la matinée, alors que du coup, je crois que le porte-parole du gouvernement disait que c'était toujours interdit, on apprend que quelques minutes plus tard, ou en même temps, qu'en fait, elle est autorisée, mais sur un parcours, et ça, c'est du gros foutage de gueule, mais proposé du coup par le ministre de l'Intérieur, avec une toute petite boucle. Alors, moi, je connais pas beaucoup Paris, mais apparemment, c'est ridicule. Qui partira de la place de la Bastille, qui fera le tour sur le bassin de l'Arsenal, si j'ai bien compris, pour revenir place de la Bastille. Donc, ça veut dire 1,5 km de parcours. Donc c'est pas un parcours, en plus que c'est plutôt une boucle, c'est-à-dire que les gens vont se marcher dessus. Et donc on espère qu'il y aura beaucoup, 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 beaucoup de monde pour que, en fait, tout le monde ne tienne pas sur ce parcours-là, que d'autres parcours soient, pourquoi pas, inventés au fur et à mesure de l'après-midi, parce que du coup ça ne passera pas, hein, s'il y a autant de monde que les autres fois. De toute manière, sur ce tout petit parcours, les gens vont se marcher dessus, vont faire le tour, ne pourront même pas faire la boucle parce que les autres ne pourront pas partir de toute manière. Donc voilà, donc on espère que voilà, il y aura plein plein de monde pour le faire. À Toulouse aussi, il y avait idée d'annuler cette manifestation et finalement ça a été maintenu au dernier moment. Alors je sais pas si le parcours a été changé ou pas aussi, mais en tout cas voilà, elle aura bien lieu là-bas. Pour Lyon, du coup, on l'a dit tout à l'heure, mais du coup le départ se fait à 13h de la manufacture des tabacs en direction de la place Maréchal Yotay, donc dans le 6e, c'est la place qui est en face d'Hôtel de Ville, hein, quand vous traversez le Rhône, le Pont Morand, voilà, avec un passage par Saxe. Donc du coup globalement, ça va faire le trajet classique jusqu'à Saxe, après on va tourner sur l'avenue de Saxe, l'avenue Jean reste juste pour rejoindre la place Maréchal Yotay. Bon, ça va être assez bizarre d'aller là-bas, hein, dans le 6e, de s'arrêter sur cette place, mais bon, voilà, on va faire avec. Hein. Ça rappellerait peut-être des mauvais souvenirs à certains pour une arrestation il y a quelques années sur,
je vois ce que tu
sur une manifestation antifasciste pas déclarée. Donc voilà, donc c'était quand même assez hallucinant cette interdiction de manif hein, sur un gouvernement toujours dit de gauche, hein, qui n'en a plus que le pseudo-nom maintenant, on vérifie de chaque jour, chaque semaine et chaque mois. Juste pour rappeler aussi, voilà, plusieurs interdictions de manifester avaient été prises hein, ces dernières années, notamment durant la COP21, on s'en rappelle, hein, où du coup il y avait eu la place qui avait été quadrillée. Avec interdiction de manifester, c'était juste après les attentats du mois de novembre. Donc le gouvernement dit qu'un rassemblement c'est mieux parce qu'il n'y a pas d'incident. Bah, du coup, ça n'avait pas été le cas à ce moment-là, parce que les gens avaient cherché à marcher, c'était bien, bien normal. Plus anciennement aussi, lors des manifestations de soutien à Gaza, qui là aussi s'était terminé par des affrontements, je crois, dans le quartier de la Goutte d'Or, il me semble, ou à Barbès, je ne sais plus. Donc voilà. Par contre, les interdictions de manifestations syndicales, ben, seraient beaucoup plus rares. Et la dernière, elle est tristement célèbre, hein, parce qu'elle remonte au 8 février 1962. Les syndicats et les partis de gauche français, dont la CGT et le PCF, avaient organisé une manifestation à Paris contre le fascisme et pour la paix en Algérie. Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre avaient causé la mort de 9 personnes dans le métro Charonne à Paris. Mmh. Donc voilà, triste souvenir. Donc il y aura bien une petite manif à Paris, mais on espère que ça débordera de tous les côtés pour que ça reste pas sur ce trajet imposé par le ministère de l'Intérieur. Donc voilà, puis petite réaction aussi qui fait rire hein, pour montrer vraiment que... Que le Front National est une vraie girouette quand on parle de social, hein, parce que on se rappelle que le 20 mai dernier, la présidente de ce parti de merde avait réclamé l'interdiction des manifestations en période d'état d'urgence. Voilà, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Et ben aujourd'hui, elle s'est dite que cette interdiction était une démission face aux casseurs, une atteinte grave à la démocratie. Donc voilà, c'est assez formidable qu'on peut changer d'idée comme ça tous les jours sur le Front National. Ensuite, on voulait faire un petit point, parce que du coup, on s'est fait un peu emmerder à la dernière manifestation contre la loi Travail et son monde, voilà. Avec des personnes qui sont venues avec une pancarte, avec un dessin, du coup, clairement homophobe. Donc voilà, sur le petit dessin, on voyait une personne à genoux, à poil, se faire sodomiser par une balle, je crois, tirée par un pistolet pour le
49.3. Oui, un espèce de suppositoire
voilà.
Énorme, enfoncé à coups de masse.
Voilà, exactement. Donc on a expliqué à cette personne, c'était pas la première fois, parce que déjà sur les premières mobilisations Place Bellecour, on s'était pris le chou avec certaines personnes qui avaient donc du coup ces pancartes-là. Donc là, du coup, c'était un truc de Ciné Hebdo, je crois, un truc comme ça, ou Ciné Mensuel, je sais pas. Donc pour leur expliquer que cette pancarte-là n'avait pas la place dans notre cortège, qu'elle pouvait choquer beaucoup de personnes, qu'elle pouvait aussi, voilà, que du coup ça pouvait aussi mettre très mal à l'aise des personnes de la communauté LGBT, voilà, qui étaient dans nos cortèges, et qu'il fallait vite qu'elle dégage ou qu'elle baisse sa pancarte et qu'elle l'arrange. Les deux personnes n'ont pas voulu, donc il a fallu à un moment donné leur gueuler très fort dans les oreilles et puis les bousculer un petit peu pour qu'ils acceptent de sortir parce qu'ils ne voulaient toujours pas. Donc voilà, après un peu comme d'hab, on se fait traiter un peu de flic, de faf, de tout ce qu'on veut, qu'on est contre la liberté d'expression, etc. Bref, voilà, un peu comme d'hab. Hein. Mais ce qui m'a rassuré ou pas du tout, c'est que des réactions comme ça, ben, y en a ailleurs aussi. Et il y en a notamment à Paris. Donc il y a deux textes qui sont sortis là récemment. Je vais vous lire le premier, du coup, il est issu du Front Antipath, le groupe anarcha-féministe de la coordination des groupes anarchistes de la région parisienne, dont le titre est « Dans la lutte culture de classe et pas culture du viol ». Du coup, voilà, on vous lit ce qui s'est passé. Du coup, Place de la Nation, le 26 mai dernier, alors que les matraques, les grenades s'abattent sur les manifestants et manifestantes, un cortège d'hommes arrive sur la place, en partie reprise par le cortège combatif de Solidaires. Au bout de leur bâton, une banderole de 2,5 mètres de long sur laquelle est dessinée une femme grimaçante qui ressemble à Marianne, dénudée, les fesses dénudées, et plus loin un sexe d'homme sur lequel est écrit 49.3. Celui-ci menace de la violer. Quel slogan avec tout ça ? 49.3, ça ne passera pas. Pour toute femme qui la regarde, l'image, la comparaison sont comme une claque qui assomme. Déjà une semaine avant, dans la manifestation du 17 mai, notre camarade était insulté en public et traité de, entre guillemets, de suceuse de flic par un membre du SO. Déjà il y a peu, des femmes ont été agressées, des femmes ont été violées pendant Nuit debout. Basta, lutter contre la loi travail et en même temps être le bras armé de l'ordre moral et du patriarcat dans un mouvement social, basta. Anarcha-féministes et féministes ont arraché la banderole et lui ont mis le feu, sans oublier de s'en prendre à ses auteurs. Et ça finit par, donc le camarade, à chaque fois que j'ai cité, c'est le camarade bien sûr, entre guillemets. Camarade, homme, tu veux nous faire oublier que chaque 6 minutes l'un des tiens nous viole, que chaque 2 jours l'une de nous meurt sous vos coups, qu'ils espèrent notre silence à chaque insulte, agression. Camarade, homme, la lutte ne sera jamais sans les femmes. Et c'est quand les femmes se lèvent que le peuple avance. On se passera de diffuser la photo de la banderole par respect pour nos sœurs, prédateurs, machistes et hommes violents. Nous rendrons coup pour coup, notre place est partout, la vôtre nulle part. Donc voilà, c'était le signé, le Front Antipath, le groupe Anarcha Féministe de la CGA sur la région parisienne. Et puis du coup, il y a un autre texte qui est sorti sur Paris Lutte Info, que je vais vous lire aussi, parce que c'est sur le même sujet, dont le titre est « Ça pue, camarades sexistes ». La manif du 14 juin m'a laissé un goût amer, pas seulement en raison des violences policières et de la manipulation médiatique qui s'en est suivie, mais également parce qu'elle a constitué pour moi une piqûre de rappel de la vivacité de la culture du viol dans nos propres milieux militants. Mardi 14 juin, je suis allé manifester contre la loi travail comme des centaines de milliers d'autres personnes. Arrivé un peu tardivement place d'Italie, en route pour rejoindre deux camarades déjà partis avec le cortège de tête, je me sens galvanisé par les drapeaux s'agitant à perte de vue dans tous les boulevards confluant sur la place, elle-même noire de monde et rouge d'éclat de rire, le cortège danse interminable. Au bout de quelques minutes, un slogan va me cingler les tympans et entamer mon enthousiasme. Donc ce slogan, c'est « Julie, c'est Julie qu'il faut baiser, pas les salariés », en référence du coup à Julie Gayet, la compagnonne, je pense, du président, elle s'est pas mariée, j'en sais rien, on s'en fout. Non content d'avoir, dans un élan viriliste nauséabond, traité en cœur la ministre du Travail de « salope » ou encore d'avoir appelé au viol punitif à son encontre lors de précédentes manifestations, ils appellent désormais à s'en prendre également aux femmes qui, entre guillemets, couche avec l'ennemi. Fantastique. Edith, on leur rasa le crâne à Libération aussi. J'essaie de ne pas trop me braquer, de poursuivre mon chemin pour aller retrouver mes camarades. En route, je fais les frais d'œillade appuyée des commentaires sur mon apparence physique et ou ma tenue, dont le classique, mais non moins flamboyant, c'est pas très malin de venir habillé comme ça. Vous l'aurez sûrement deviné, je suis en jupe. Donc c'est la personne qui raconte ça. Je ne scande pas les slogans avec moins de conviction ou de coffre en jupe. Je ne marche ou ne cours pas moins vite en jupe, je peux même pisser plus facilement dans un buisson en jupe, je ne suis pas plus vulnérable aux lacrymos et ou aux coups de ton fin en jupe, la seule chose de laquelle je ne suis pas à l'abri, contrairement à vous, et ce, quelle que soit ma tenue, c'est de commentaires sexistes. Les affrontements avec la police ont commencé peu de temps après que j'ai retrouvé mes camarades, du gaz, beaucoup de gaz, pas vu ça depuis le mouvement Gezi Park à Istanbul où j'étais il y a 3 ans, des canons à ondes, des coups, des projectiles parfois lancés au petit bonheur la chance qui s'écrasent malencontreusement sur des militants et militantes, même pas casqués, des déflagrations à non plus savoir si c'était des pétards lancés par des militants et militantes ou des grenades de encerclement, des voltigeurs qui tournent sur la place des Invalides, des voltigeurs comme l'étaient les ordures qui ont traqué puis assassiné Malik Oussekine en 86. J'apprends qu'un militant s'est pris un projectile dans le dos, que les policiers ont continué à frapper les gens venus lui porter secours pendant plusieurs minutes et qu'il est aux urgences dans un état grave, puis de lacrymo, valse de pavés, charge de CRS. Le nuage corrosif et le déferlement de violence qui s'abat sur nous me coupent le souffle. Plusieurs personnes autour de moi saignent de la tête, les larmes acides m'ont aveuglé quelques secondes de trop. J'ai perdu de vue mes potes, peur de les perdre tout court. J'ai demande à un militant qui a une bouteille s'il veut bien me donner un peu d'eau. Il me l'attend en se fendant au passage d'un « attention, il y a du GHB dedans » avant de se fendre la poire avec son pote. Je les ai regardés avec dureté et ai dit « ce n'est pas drôle, je me prends des lacrymos et des coups de matraque comme vous et vous cassez la solidarité entre nous avec ce genre de blague. En plus de la violence policière, nous aussi on doit être en permanence sur nos gardes à cause de ce genre de commentaires de la part de camarades. Vous n'avez pas idée de ce que c'est de militer dans ces conditions pour nous. Vous n'avez pas idée de ce que c'est de se sentir comme une antilope face à une armée de chasseurs enragés et dans la fuite de se réfugier auprès de ce qu'on croyait être d'autres antilopes avant que l'une d'entre elles ne s'esclaffe en retirant son masque. Grossière erreur, ma jolie, en fait, je suis un guépard. Ça s'en est-il vraiment à ce que j'attrape la bouteille en me tendant de rire, béate d'admiration devant un tel trait d'esprit. Du GHB, excellent, ne l'avez jamais faite celle-ci. Surtout pas entre deux nuages de lacrymos, ça alors on peut dire que ton sens de l'humour est à l'esprit de ce que le 4x4 est à l'automobile. Je ne crois pas, je suis même certaine que non, qu'il en a été conscient ou pas, que cette entre guillemets blague n'avait clairement pas pour fonction de créer de la connivence entre lui et moi, mais entre lui et son pote et à mes dépens, alors que j'étais déjà de toute évidence en détresse. Cette connivence, c'est la solidarité masculine qui se noue à nos dépens, à toutes, dont l'humour n'est que l'une des manifestations, tout autant produit que reproducteur de la chape de plomb recouvrant les violences sexuelles. On ne badine pas avec l'humour, il ne suffit pas de remettre son costume d'antilope pour annuler l'effet produit par le masque tombé, dévoilant le sourire carnassier. La plupart des femmes de mon entourage proches ont vécu des viols ou des agressions sexuelles d'hommes qu'elles considéraient comme des camarades. Vous n'avez pas besoin de GHB pour ça, juste de perpétuer le mythe selon lequel les violeurs sévissent ailleurs, loin de vous. Vous les mecs bien, ceux à qui leur syndicat a même dispensé une formation antisexiste, ceux qui ont même manifesté pour le droit à l'avortement l'an dernier, ceux qui féminisent même leur tract alors que franchement c'est relou, ceux dont la copine est même féministe, bienvenue chez les panou. Un bref saut sur le petit Tumblr, la salut camarade sexiste, suffit à se faire nier de l'ampleur de la culture du viol dans nos milieux. Étymologiquement, camarade signifie celui avec qui l'on partage la chambre. Tant que vous ferez planer la menace du viol au-dessus de nos têtes, nous ne pourrons pas être camarades et nous n'aurons que la moitié de la force que nous n'aurions si nous étions unis pour construire un monde sans chasseurs et sans proie. Donc voilà, du coup, on est solidaire forcément de ce texte. On est forcément solidaire aussi du communiqué des copines de Paris. Et puis, on recommencera à chasser de nos cortèges toutes ces personnes-là qui ne nous comprennent pas.
On ne lâchera rien.
Donc voilà, un petit point répression. Voilà, ça va se passer à Saint-Étienne le 13 juillet. Il y a un tract qui est sorti, donc nos procès politiques, nous soutenons les jeunes poursuivis pour les actions contre la loi travail à Saint-Étienne. Le 13 juillet 2016, Martin, 24 ans, Nina, 24 ans, Jules, 25 ans et Yvan, 29 ans, sont convoqués devant le tribunal de Saint-Étienne pour y être jugés. Ils sont accusés de dégradation, de rébellion et de violence sur policiers suite à la manifestation du 12 mai, au cours de laquelle un millier de personnes est allé interpeller les deux députés de Saint-Étienne sur la loi travail et le 49-3. Ces accusations graves, dont les conséquences peuvent être lourdes pour la vie de jeunes qui sont étudiants en sociologie et surveillants, employés, assistants de vie scolaire, musiciens, sont mensongères. Il s'agit d'un procès politique pour frapper des opposants à la loi travail et faire déraper un mouvement social qui ne faiblit pas, malgré toutes sortes de manœuvres, car depuis plusieurs mois, c'est une stratégie de la tension qui est mise en œuvre dans de nombreuses villes par le gouvernement Valls-Cazeneuve pour faire peur, décrédibiliser le mouvement et le faire basculer dans la violence. À Saint-Étienne, depuis début mars, les journées de mobilisation contre la loi travail se succèdent à l'initiative des organisations syndicales et de jeunesse. Elles sont marquées par la présence dynamique des jeunes, dont des milliers d'entre eux sont descendus dans la rue. Pas difficile de comprendre pourquoi. Déjà victimes d'une précarité de masse, ils sont au premier rang pour encaisser la suppression des droits, garanties et protections contenues dans le Code du travail, que cette loi démantèle. Donc voilà, je reviens un peu plus vite parce que du coup on va pas avoir le temps de tout faire ce soir. Donc je reprends le communiqué. Donc le 12 mai, un millier de personnes a interpellé donc les deux députés de Saint-Étienne. Une banderole a été déployée depuis le balcon de la permanence de J.L. Gagnère, absent au rendez-vous. Il reconnaît lui-même ni vol ni vandalisme dans sa permanence. Mais le 13 mai, le ministre de l'Intérieur Cazeneuve de passage à Saint-Étienne, ça nous rappelle quelque chose, hein, chaque fois qu'il y a un ministre de passage dans une ville et qu'il y a une manif, généralement ça réprime sévère. Il a appelé à punir les casseurs, entre guillemets, et professionnels de la haine. C'est sous de la gueule du monde aussi. Et c'est là où ça devient assez hallucinant, c'est qu'ils ont été arrêtés chez eux avec perquisition de leur logement et de celui de certains de leurs parents le jeudi 2 juin à 6h du mat dans une opération qui a mobilisé une centaine de policiers, puis gardés à vue 36 heures. Martin, Nina, Jules et Yvan ont été traités comme des terroristes. Le 13 juillet prochain, ils seront conduits au tribunal accusés de dégradation, rébellion, violence sur policiers. Donc c'est un procès politique dont l'objectif est de faire taire et dérailler le mouvement social contre la loi travail et de punir des jeunes qui s'occupent de la politique de leur pays. Nous ne sommes pas dupes de la stratégie du gouvernement pour imposer une loi inspirée par le MEDEF. Nous exigeons que cesse cette opération de provocation. Nous exigeons le respect des libertés publiques. Nous affirmons notre solidarité avec les jeunes menacés et notre soutien à leur engagement citoyen, syndical et politique contre la loi travail. Nous exigeons leur relax. Et donc il y a un appel à les soutenir le 13 juillet au tribunal de Saint-Étienne. On espère qu'il y aura du monde. On vous en reparlera sûrement la semaine prochaine. Et vous avez sûrement entendu parler aussi d'Antoine, hein, cette personne de Valenciennes, là, ce syndicaliste qui avait été arrêté en prévention avant une manif sur l'île, je crois. Mmh. Il y a eu son procès, donc c'était le 9 juin, on voulait en parler la semaine dernière, mais on n'a pas pu. Donc après plus de 8 heures d'audience avec des centaines de manifestants rassemblés à ses portes, le tribunal de grande instance de Lille a condamné Antoine, militant de la CGT Valenciennes, à 10 mois de prison avec sursis, avec mise à l'épreuve, 8 mois pour de prétendus faits de violence, 2 mois pour refus de prélèvement ADN. Autre inculpé, François Ecope, de 6 mois avec sursis. Antoine et François sont également interdits de manifestation dans le département du Nord pendant 2 ans. C'est ce qui est beaucoup le cas aussi, en plus des condamnations de prison et d'amende lors de ce mouvement de l'au travail, c'était le cas aussi en 2010, c'est qu'on interdit aux gens de manifester. Le dossier de l'accusation est vide. C'est bien un procès politique qui s'est déroulé jeudi 9 juin à Lille. Antoine a été condamné pour son engagement syndical parce qu'il est connu comme militant antifasciste et libertaire. Donc encore du soutien qui va se faire auprès de lui, voilà, pour là-dessus. Et un petit tour du côté de... Je continue, hein, c'est pas grave, on verra pour la pause musicale. Du côté de Rennes, vous vous rappelez du coup qu'il y avait eu le 28 avril dernier un étudiant qui avait perdu un œil suite à un tir de flashball. Et ben ça y est, l'enquête enfin, vous avez vu, ça a pris quand même avril, mai, un bon mois et demi. Et ben une information judiciaire a été ouverte mardi à Rennes pour déterminer dans quelles circonstances un étudiant donc a été atteint à l'œil par un tir de lanceur de balles de défense LBLD lors d'une manifestation le 28 avril. L'expertise médicale, comme les auditions, ont confirmé l'usage de l'arme par les policiers, initialement démenti, un peu comme d'habitude. Les témoins n'avaient aucun doute, mais les experts n'avaient pas encore livré leurs conclusions. Donc cet étudiant en géographie de 20 ans, là, Jean-François, a bien été blessé à l'œil par un tir de lanceur de balles de défense lors de la manifestation du 28 avril à Rennes, alors que la police chargeait une foule en fuite sur le quai Chateaubriand. Il a donc perdu son œil. Deux experts médecins légistes, dont l'un spécialiste en balistique, ont remis donc le 16 juin leur rapport qui incrimine un tir policier. Donc l'hypothèse la plus probable est celle d'une lésion majeure de la région orbitale gauche provoquée par un impact de balle de lanceur de balles de défense, indiquent les experts. Donc Nicolas Jacquet, le procureur de la République de Rennes, a donc décidé d'ouvrir une information judiciaire, faisant état en outre de la confirmation par l'enquête préliminaire de l'utilisation de cette arme par les policiers. Les investigations diligentées par l'IGPN ont permis d'établir qu'au moment des blessures occasionnées à ce manifestant, au moins deux tirs de LBD avaient été effectués par les services de police en réaction à des jets de projectiles, a indiqué le procureur. Le jour des faits, ce tir policier avait été vivement contesté, purement et simplement par le préfet, Patrick Strozda, qui coordonnait les opérations de maintien à l'ordre quelques jours avant sa mutation à la tête du cabinet du ministre de l'Intérieur, comme quoi mentir, ça sert. Le préfet déclarait au journal du coin qu'aucun flashball n'avait été utilisé, suggérant aux médias qu'un choc dû à une grenade lacrymogène ou à un projectile émanant des manifestants, mais c'est bien sûr, avait pu provoquer la blessure de l'étudiant. Par la suite, les services du préfet avaient finalement admis l'usage des flashballs par les forces de l'ordre. Donc voilà, et sur les photos, on voit bien deux policiers mettre en joue les manifestants. Les tireurs de flashballs ont été identifiés sans mal parce qu'ils étaient quatre fonctionnaires à en avoir ce jour-là, de la BAC et de la compagnie départementale d'intervention. Il n'y a jamais eu de volonté de tirer dans les yeux, oui, forcément, ils ne savent pas tirer, en plus, normalement, je crois qu'il y a un viseur maintenant, enfin, il y a un fameux viseur laser, là. Je ne sais pas si cela en était équipé, mais du coup, voilà, ils ont dit, en général, on tire plutôt l'abdomen que la tête, bah, tu m'étonnes. Mais là, c'est raté. Donc voilà, on va voir ce que ça donne maintenant. Donc, on sait qu'il y a très peu de condamnations en cas de violence policière. Là, on verra du coup ce que ça peut donner pour Jean-François et son œil. Et je regarde si j'en ai fini. Et oui, ça y est, j'en ai fini. Je fais juste une dernière petite page, puis après
allez.
Lâche le crachoir. On vous avait parlé du procès pour destituer l'avocat Ripper à Grenoble. Et ben, ça avait eu aussi le 9 juin, et je vous ai en parlé du coup la semaine dernière, mais on n'a pas pu. Donc le 9 juin, c'était la deuxième longue journée du procès de Maître Ripper. Donc c'est un petit compte rendu. Il y avait plus d'une centaine de personnes, ainsi qu'une cinquantaine d'avocats, est venu soutenir et dénoncer les abus, les dysfonctionnements de cette justice rendue à Grenoble, et dont l'impact et la portée dépassent les frontières médiatiques de la région, des dysfonctionnements qui témoignent de pressions et de décisions dirigées depuis les hautes sphères politiques. Le mouvement Nuit debout Grenoble et Lyon étaient bien représentés, leur engagement et leur action ont accompagné cette longue journée aux marches du palais. En effet, cette journée s'est passée pour le peuple sur le parvis du palais de l'injustice de Grenoble. Les portes nous ont été fermées. Réponse, la sécurité. Un huissier a été demandé pour constater que l'accès du palais nous était interdit, mais celui-ci qui devait désigner cet huissier était le président de la cour lui-même, celui qui siégeait à la cour. En quel droit peut-on être juge et parti? Donc, pas d'huissier. Maître Ripper, les avocats ont multiplié les requêtes. Absence de publicité des débats, irrégularité dans la saisine de la cour d'appel, blablabla. En début d'après-midi, Ripper n'a plus le droit de déposer de conclusion. C'est en milieu d'après-midi que le fond sur les manquements disciplinaires a été abordé. En fin de journée, 10 personnes ont été autorisées à pénétrer dans la salle d'audience numéro 13. Tous ceux qui ont pu assister à la fin du procès ont été étonnés du peu de teneur des accusations portées à l'encontre de Maître Ripper, ainsi que des nombreuses fautes de procédure qui ont été dénoncées haut et fort avec des mots justes, article à l'appui, par Ripper et son avocat venu d'Aix-en-Provence et avec le soutien de tous les avocats présents. Nous avons appris qu'il avait aussi un soutien international d'avocats. La demande de radiation a été demandée par le procureur général Paul Michel, que Ripper appelle Monsieur Paul, en référence à Paul Touvier, chef de la milice lyonnaise. Le procureur a demandé en s'énervant que son nom soit respecté. Ripper de lui répondre qu'il faisait référence à l'apôtre parce que pour lui, il était surmonté d'une auréole. Le procès s'est fini à 23h45 et le délibéré est donc demain. Voilà, on vous donnera des nouvelles sûrement la semaine prochaine. Voilà. Même s'il y a peu de doutes sur le résultat de celui-ci, il y aura sûrement radiation de Maître Ripper, mais en espérant peut-être qu'il y aura une bonne surprise. Donc voilà, j'en ai fini avec ma page.
T'en as encore quelque chose après?
Oui, mais du coup, on peut soit enchaîner par ta deuxième lutte, soit par un pied de pause musicale.
Oui, parce que je pense que ça va peut-être
faire... Vas-y, tranquille, alors, on y va.
Donc, deuxième page de lutte, et on va commencer cette deuxième page par IBM, la grande maison IBM, 7000 salariés en France, hein, quand même, hein, sur l'Hexagone. Eh bien, la direction de IBM a décidé de trancher, et pas n'importe comment, à la gueule, au faciès, car pour IBM, il y a des caractères faits pour être virés. Et c'est totalement interdit, bien entendu. C'est dans le cadre, évidemment, de suppression d'emploi. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais ça va venir. Donc, le 7 juin, une mobilisation de 1000 personnes tentait l'impossible contre une diminution des coûts du travail par éclatement de la masse salariale et de délocalisation. On a trouvé sur le terrain, quand même, une intersyndicale quand même en force, hein, de classe, quand même, avec la CGC, la CFDT, la CFTC, la CGT, l'UNSA et EFO. Et ça faisait suite à une première action qui avait eu lieu le 26 mai. Au Havre, maintenant, avec l'hôpital Pierre Genet, donc, qui est un établissement public, et les assemblées générales se succèdent depuis février, pour un manque d'effectifs partout, sauf évidemment dans les lits qui accueillent les patients et patientes. Le personnel, tout le personnel souhaite se réapproprier l'organisation des soins, loin des visions protocolisées, pardon, les gens de l'intersyndicale, hein, loin des visions protocolisées qu'on veut nous imposer. Une soirée hôpital debout a été mise en place le 7 juin pour dénoncer le regroupement, encore une fois, hospitalier du Havre, sur le Havre. En Indre-et-Loire, c'est des assistantes sociales et assistants sociaux en grève, et leur syndicat, la FSU, qui est majoritaire chez elles, hein, et chez eux, elles sont polyvalents et polyvalentes de secteur, manif au centre administratif. Elles sont 127 assistantes et assistants sociaux qui, depuis la décentralisation, ne peuvent plus assurer les missions qui sont les leurs. 8 postes ont été supprimés par le conseil du département. Les revendications sont donc dans le texte. Il leur faut du monde et toujours du monde. À Albi, maintenant, avec une grève de 6 semaines, c'était au 21 juin, pour les conducteurs et conductrices de bus. Une heure de grève en matinée, dès 6 heures du matin. 20 irréductibles sur 48 titulaires qui non seulement tiennent bon, mais informent les usagers et les usagères sur l'organisation du réseau. 47 lignes auraient été supprimées par manque d'effectifs, selon les grévistes. Et pourtant, je les cite encore, on a le matériel, donc les bus en question, mais pas le personnel. La direction s'en tient à casser le mouvement en traînant les grévistes en justice, parce qu'ils les accusent évidemment de la dégradation du service. Autre chose, c'est à Toulouse, hein. Ça, c'est les effets de la lutte contre la loi travail et son monde, et la suite, hein, je dirais, à Toulouse, c'est le dépôt Tisséo, donc transport de personnes, un transport public au 1306 qui était bloqué, flic au dépôt de Langlade, arrestation de 2 syndicalistes de Sud et de la CGT. À PSA, c'était le 14 juin en grève à PSA, mais aussi contre une vacherie de la direction centrale qui, lors des NAO, a proposé 4 euros bruts mensuels à l'orée de 2017, 2018 et 2019. Donc on prévoit très loin.
C'est pas drôle, c'est tellement ridicule.
Sûr un peu, hein. Ils sont sûrs de leur truc, hein. La direction donc prend d'ores et déjà ses dispositions, et les Peugeot se battent aussi contre ce dont j'ai parlé il y a une quinzaine de jours, le NCS2, donc cette deuxième mouture qui impliquerait donc le travail de nuit, qui transformerait un 3x8 en 2x8, mais au niveau évidemment des salaires. À Dijon, c'est chez Keolis, c'est dans le transport également, grève le 14 juin à l'initiative de la CGT, de la CFDT et de EFO, service public donc de transport en commun. En Gironde, dans le département, grève dans plusieurs villes comme Mérignac, Bègles, Pompignac, qui perturbent donc les lignes de tram, de bus et de ramassage des déchets. Et les sociétés touchées ici sont TBM, Trans Gironde et Veolia.
Alors plus bas, mais plus bas géographiquement, puisque c'est dans le Pays Basque, avec les cheminots et cheminotes, facteurs, factrices, pilotes, c'est sur Biarritz, Bayonne, etc. Conditions de travail pour tout le monde, évidemment, et convention collective nationale de, pour les cheminots et cheminotes, donc de la SNCF. À Nantes, le préfet ne se mouche pas du coude aussi, il a pris un arrêté interdisant un rassemblement à 19h. Du coup, un appel d'organisation proposait aux non-partants et partantes pour Paris de se joindre aux deux endroits de la ville, à 14h puis à 19h. À Saint-Maur-des-Fossés, avec une grève dans les écoles des personnels du périscolaire, animateurs, animatrices, agents et agentes de cuisine qui demandent des moyens pour travailler. Et joignant le mouvement, ils ont joint donc le mouvement municipal au mouvement national. Allez, je me dépêche, j'en ai encore deux là.
Ouais, c'est bon, c'est bon.
Ça, ça va aller.
Long, ouais.
Donc à La Bruyère, c'est dans l'Oise, avec l'hôpital de l'APHP, Assistance publique des hôpitaux de Paris, hein, je rappelle. Donc établissement public, bah, c'est l'hôpital Paul Doumer, spécialisé en gériatrie. C'était le 19 juin, avec une grève, avec soutien d'autres personnels d'établissement de l'Île-de-France. Les bureaux de la direction ont été occupés. Alors les revendications, bah, c'est maintien au sein de l'APHP et stop au plan d'économie de la direction. À Rouen, grève des agents en charge du nettoyage après le marché. Ça, ça m'intéresse. Et ça peut intéresser aussi les Lyonnais du quartier. Là, je citerai le plateau de la Croix-Rousse où des fois, c'est vraiment une horreur. Donc, nettoyage après le marché, ben, il n'y en avait pas. Vive protestation donc, sur l'état dans lequel certains commerçants laissent les emplacements. Eh bien, à Rouen, plusieurs emplacements n'ont pas été nettoyés. Les agents de la direction des espaces publics et naturels et la CGT territoriaux ont reconduit leur grève. Pourtant, en 2010, un accord avait été conclu avec les commerçants pour les efforts consentis par eux-mêmes pour ménager, entre guillemets, le travail des nettoyeurs. Depuis, les uns, les unes et les autres, ben, se rejettent des responsabilités. Qui des commerces qui laissent sur place le pourri, toujours les mêmes, selon certains. Qui rejette la responsabilité sur le placier, qui ne fait pas son boulot, évidemment. Je ne dirais pas que c'est le placier, là, c'est plutôt le lampiste. Et qui ne fait pas donc son boulot d'organisateur, etc., etc. Eh bien, lui-même aussi proteste sur cette, sur ces accusations. Oui, je disais donc le plateau de la Croix-Rousse, faut voir comment, dans quel état c'est. Ouais. Hein, je vais pas faire de détails là-dessus maintenant, puisqu'il nous reste encore à peu près 10 minutes.
Yes, on va enchaîner du coup.
Et tu vas enchaîner.
Ah ouais, sur autre chose. Alors c'est pareil, c'était un petit texte qu'on voulait vous lire la semaine dernière, parce que du coup, c'est à l'appel du collectif Kamel Libre, donc Kamel Bouabdallah, qui a passé une bonne partie de sa vie en prison, et il y avait du coup son procès, bah, c'était le 20, 21 et aujourd'hui 22 juin à la cour d'assises d'appel de Grenoble. Du coup, qui devait décider du sort réservé à Kamel, 28 ans, condamné en première instance par la cour d'assises de Valence à 25 ans de prison. Voilà, si vous voulez chercher le texte, vous pouvez le trouver sur Rebellion, et puis on vous tiendra au courant la semaine prochaine du résultat du coup du procès. On reparlera un peu de tout ça. Et donc du coup, on va parler un peu de Roux. Alors, on va pas refaire le match, comme ça se fait dans beaucoup de radios. Vous avez sans doute suivi un peu ça, la horde de supporters racistes qui déboule un peu partout en France, dans pas mal de villes. Vous avez vu sûrement les Russes à Marseille, dégommé de l'anglais et chassé du milieu de quartier. Vous avez sans doute suivi les Ukrainiens au stade de Lyon avec leur belle croix gammée en pleine tribune. Vous avez sûrement suivi les Polonais à Marseille qui sont partis en manifestation avant le match avec une superbe banderole marquée « Défense de la culture européenne ». Et bien sûr, on laisse faire tout ça. Et ben, on va
vu en
juste...
En fait, on n'a jamais vu ça, en fait. Enfin, moi, j'arrive de temps en temps à les consulter.
Ça en parle très doucement.
Quoi, médias,
très petitement, on va dire. Il y avait aussi nos amis, entre guillemets, bien sûr, nos amis les Bêtes ou les Gueules Lyonnais qui ont été pris à des Anglais il y a deux soirs de ça, je crois, du côté de Saint-Jean, qui avait attaqué un bar en traître et qui était reparti en courant sur la charge des Anglais derrière. Ben voilà, toute cette magnifique fête populaire, ce que peut engendrer comme racisme, comme violence, etc., etc. Et aussi une histoire de sous. Alors, il y a un article assez intéressant sur Bastamag qui a été fait en relation avec le magazine Alternative Économique sur les fameuses retombées économiques pour la France de ce fabuleux événement. Donc on reprend une petite phrase au début de l'article de François Hollande. C'est une chance pour la France, pour nos clubs, pour nos territoires. Amoureux du ballon rond, François Hollande ne manquait jamais une occasion de répéter combien l'Euro 2016 doit être bénéfique à la France. Il y a bien lieu pourtant d'en douter, parce que si on ne sait pas précisément combien l'euro rapportera à la France, on sait qu'il va lui coûter cher. Comme en témoigne la répartition des coûts et des bénéfices entre les différents acteurs, côté coûts, l'UEFA assure l'organisation du tournoi pour un montant estimé à 650 millions d'euros. Location des stades, gestion des billets, tout le reste, stades, infrastructures, sécurité, fan zone, est à la charge des pouvoirs publics français, et notamment de l'État et des villes hôtes. La répartition des bénéfices est encore plus claire, c'est simple, l'UEFA garde tout. Commente un professionnel de l'économie des grands événements sportifs. Droits de retransmission télévisée, sponsoring et billetterie. L'UEFA s'attend à toucher 1,9 milliard d'euros de recettes grâce à cette compétition. Ce record est notamment permis par l'élargissement du nombre d'équipes participantes, 24 cette année contre 16 pour les éditions précédentes. Cerise sur le gâteau, l'UEFA a exigé de ne payer aucun impôt sur ses activités en France liées à la compétition. Et on nous saoule avec le trou de la Sécu, avec les lois et compagnie, avec les mobilisations sociale, et donc là voilà, c'est l'UEFA. Donc gros cadeau fiscal. On sait aussi que du coup il y a deux nuits de ça, je crois, au niveau des députés, il y a eu de nouveau la transaction européenne pour savoir du coup sur les multinationales qui déclaraient où, qui avait son siège social où pour déclarer les impôts. Bah ça a été mis à l'os, parce que du coup ça a été voté à l'Assemblée un soir à minuit. Du coup le ministre ou le délégué qui était chargé de ça est revenu en force et a fait revoter le texte en appelant ses potes pour que ce soit voté contre. Donc du coup pas de ça. Et on a aussi sur la transparence des députés, hein, on avait ça aussi, c'était un engagement aussi de soi-même président de gauche, et bah du coup là c'est toujours aussi, ça a été voté contre aussi, donc voilà, on est bien là, hein. Donc voilà, donc accorder donc ce fait que l'UEFA ne paye pas d'impôts sur ses activités, donc accordé sur la présidence Sarkozy, confirmé sous le quinquennat Hollande, cette exonération devrait coûter entre 150 et 200 millions d'euros à la France, selon l'Assemblée nationale. Elle donne de plus un mauvais exemple, le gouvernement a étendu en juillet 2014 cette exonération à tous les autres grands événements sportifs organisés dans l'Hexagone, comme quoi voilà, hein. Voilà, en plus de cette répartition peu favorable à la France, l'UEFA a imposé un cahier des charges très directif. Il contient notamment des exigences sur les stades, les infrastructures obligatoires ou les normes de sécurité. Outre ce cahier des charges, l'instance européenne a formulé plusieurs requêtes très osées. Elle a par exemple demandé aux commerçants installés à proximité immédiate des stades de lui payer une redevance de 600 euros par jour de match et de ne servir que des produits des sponsors officiels. En cas de refus, le commerce aurait dû fermer et aurait été recouvert d'une bâche de 2,50 m de haut les jours de match. C'est quand même assez formidable. L'UEFA a vendu à ses sponsors des critères d'exclusivité fantaisistes écrits par des avocats suisses un peu loin de la réalité. Mais ils ont compris qu'on ne pouvait pas accepter ça. Finalement, heureusement, les commerçants vendront ce qu'ils veulent. Mais pour éviter que d'autres marques ne profitent de l'événement pour gagner en visibilité, les concurrents des sponsors officiels ne pourront pas faire de publicité dans un rayon d'un kilomètre autour des stades. Enfin, l'UEFA oblige les collectivités locales qui veulent diffuser les matchs sur écran géant à lui payer une redevance supérieure à 1000 euros. Donc voilà, et par rapport aux retombées économiques, la très grande majorité des études académiques montrent que les méga événements ont un impact économique limité. Alors qu'on nous sortait ça, qu'il fallait arrêter de manifester aussi pour laisser cette manifestation sportive avoir lieu tranquillement. Donc voilà, et je vais juste vous lire du coup un petit tableau qui avait été fait. Donc l'austérité, mais pas pour tout le monde, plus de 2,5 milliards de dépenses publiques pour la rénovation et la construction de stades et la construction des équipements d'accès, des retombées économiques maximales estimées à 1,2 milliard pour des acteurs en majorité des multinationales, 1 milliard d'euros de droits télévisés, 400 millions d'euros des sponsors et 500 millions d'euros de recettes de billetterie pour Euro 2016 SAS, qui est donc l'UEFA.
Et quand il n'y a pas les pelouses à refaire.
C'est ça. Et donc, et pour les villes d'accueil, par exemple, donc pour Marseille, retombée très optimiste, 181 millions d'euros, investissement public, 500 millions. Retombée très optimiste pour Lyon, 166 millions, investissement public, 220 millions. Et du coup, il y a très peu d'équilibre. Nice, 81 millions de retombées très optimistes, 300 millions d'euros d'investissement public. Et après, on nous saoule avec des chiffres de voilà, tous les sacs qu'on coûte cher en manifestant, que les grévistes de la SNCF coûtent je ne sais pas combien de millions à la SNCF, etc. Bah, voilà, du gros foutage de gueule comme d'habitude. Je ne vais pas vous faire le reste, on gardera ça peut-être pour la semaine prochaine. On va donc peut-être juste vous rappeler le rendez-vous pour demain, pour la manifestation contre la loi travail et son monde. Il faut qu'il y ait du monde dans la rue, vu ce qui se passe à Paris et dans d'autres villes, avec des interdictions ou des arrangements de parcours, ou des parcours plutôt imposés par le ministère de l'Intérieur. Donc voilà, on espère qu'il y aura du monde de partout pour montrer que le mouvement ne s'essouffle pas et continue de vivre. Il y aura une autre mobilisation plus tard le 28, donc ce sera le mardi prochain. Voilà, donc je crois que le départ est au départ de Jean Massé, il me semble, mais vous regarderez ça, pour aller jusqu'à la préfecture. Donc deux manifestations en 5 jours, en espérant qu'il y a de nouveau des petites actions qui se fassent entre. Je sais qu'il y a beaucoup de diffusion de tracts les matins et les soirs, un peu de partout dans Lyon et en périphérie. Voilà, on espère que ça va tenir, que ça va s'amplifier et que les gens vont venir en manifestation. Donc voilà, venez protéger aussi, parce qu'on connaît du coup la violence policière. On sait qu'ils voulaient avoir 2 jours de congé parce qu'il n'y a pas de match de l'Euro demain et après-demain. Ils voulaient en profiter pour se reposer. Donc c'est aussi pour ça qu'il y avait des pressions, notamment du syndicat d'extrême droite Alliance, pour qu'il y ait une interdiction des manifestations. Et ben c'est pas le cas. Va falloir bosser encore un peu, mais donc méfiez-vous, préparez-vous, protégez-vous, parce que du coup ils vont être encore plus vénères que d'habitude, je pense.
Ils ont bossé 4 mois.
Donc voilà. Tout en sachant qu'il suffit d'un seul mot, hein, pour qu'il puisse se reposer, bah, c'est le mot retrait, prononcé par par le Premier ministre, et qui pourra démissionner après, soit par le président Hollande, voilà, pour que tout se calme et qu'on puisse repartir sur des discussions sereines sur l'évolution du travail. Donc voilà, donc rendez-vous demain 13h, manufacture des tabacs. On sera sûrement devant, voilà, au moins avant le départ du cortège. Et puis après, selon comment ça se passe, on sera sûrement également devant, mais voilà, on en reparlera demain. Donc voilà, de rendez-vous 13h ou un petit peu avant si vous le souhaitez, pour pouvoir papoter tranquillement. Et puis voilà.
Juste rappeler que samedi 25 juin, la Nuit Debout, et puis l'association 40 guitares pour Victor Jara, sont des camarades.
Hein, ouais, nos camarades chiliens et chiliennes, ouais, de Vaux-en-Velin.
Qui étaient passés donc à la Plume, ouais, exact, il y a quelques, ouais, temps, et qui repasseront probablement dans le courant de... Enfin, après les vacances, on va dire.
Quoi. Ouais, je pense.
Donc, qui offre concerts et débats, place Guichard, à partir de 16h. Voilà, si ça intéresse, eh ben, allez-y.
Donc voilà, puis on donne notamment rendez-vous lors de nos permanences, samedi 15h-19h, mercredi 17-19h au 8 Rue Diderot.
Toujours la même adresse.
Dans les pentes de la Croix-Rousse. Voilà. On vous souhaite une bonne soirée. La suite avec la lumière du frigo.
Tout à fait, qui est là, qui s'est préparé.
Dans une minute.
Qui est prêt à commencer. Et on vous envoie le générique.
À la semaine prochaine.
De la CGA. Salut à tous et à toutes.
La fin de la CGA, la fin de l'émission. La fin de l'émission, pas la fin de la CGA.
Comment tu y vas ?
Ah, j'ai dit ça, moi.
Ouais, tu as dit ça.
J'ai dit ça, moi. Ah bon ? Ben, je suis fatigué. Allez, ciao.